Bonjour, vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel, l'émission Renaissance avec un S, en compagnie bien sûr de Philippe Frétinier qui aujourd'hui va. Bonjour Philippe, qui aujourd'hui va nous évoquer notamment la question de la peinture et commencer par un peintre qui est très fondateur, très fondamental en tout cas dans tous ces mouvements-là, qui est Van Eyck.
Oui. Parce qu'il va introduire des révolutions qui vont vraiment contribuer à ouvrir la porte de la Renaissance en peinture. Parce que jusqu'à maintenant, prenons la peinture italienne qui est plus connue que les antécédents de Van Eyck, même si certains amateurs les connaissent. J'ai raconté dans la deuxième, je crois, émission que la peinture italienne, qui d'abord est à la tempera, c'est-à-dire hein, le lion, c'est l'œuf. Hein. Donc la difficulté de cette technique, c'est qu'on ne peut très difficilement faire jouer des transparences. A contrario, pour bien me faire comprendre, la peinture à l'huile, vous pouvez alléger en pigment la couleur en l'étirant d'une certaine façon grâce à l'huile. Et vous pouvez aller jusqu'à très peu de couleurs, notamment après avec ce qu'on appelle les glacis et les vernis.
Hein. Ce qui permet par exemple d'avoir des nuances de couleurs, des nuanciers beaucoup plus fins.
Ben oui, puis ça permet d'introduire l'idée de la transparence qui est très difficile à faire avec la tempera. Même si les Italiens étaient arrivés à un haut degré de perfectionnement dans la maîtrise de la tempera, on peut penser à Frangelico, qui est bien connu, ou aussi à Piero della Francesca. Ce que j'avais expliqué aussi, parce que je le remémore un petit peu, parce que justement, ça va expliquer pourquoi je parle de Van Eyck, qu'on ne voit pas spécialement comme un peintre de la Renaissance.
Non, c'est vrai. On le situe plutôt avant.
Oui, c'est que le paysage n'existe pas. Pas vraiment à proprement parler dans la peinture italienne, dans la peinture siennoise au Xe siècle, quasiment pas du tout. Le fond, vous vous souvenez que j'avais fait un parallèle avec la peinture d'icônes, où justement le seul fond qu'il y ait, c'est un fond en général à l'or. Alors des fois dans la pâte, on introduit des reliefs, hein, des motifs incrustés, mais qui sont juste formels, puisque c'est toujours l'or qui apparaît. Et puis petit à petit, à partir de Cimabue, on va commencer à introduire des choses, ça c'est plutôt la peinture florentine, on va commencer à introduire des éléments dans le fond du tableau.
En arrière-plan, oui.
En arrière-plan. Et d'ailleurs, la quintessence de ce mouvement, c'est Giotto, puisque dans les fresques, par exemple, de la Cappella de Scrovigni à Padoue ou dans la basilique supérieure d'Assise, Giotto et son atelier couvrent toute la surface avec des éléments figuratifs. C'est-à-dire qu'il y a la scène principale qui concerne le personnage, en fait, Saint-François, puisque la basilique supérieure, c'est l'évocation de la vie de Saint-François d'Assise, un peu de temps d'écart, hein, parce que Giotto, c'est presque la même époque que Saint-François d'Assise, hein, c'est très peu de temps après. Et donc, en dehors des personnages, il y a un décor, c'est souvent des architectures qui introduisent l'idée de la perspective, mais pas comme on va la connaître à partir de la Renaissance. Et par perspective, j'entends différents plans dans le tableau, justement. À partir de Giotto, il y a vraiment une utilisation pleine et entière de l'espace pictural.
Mais quand vous dites qu'il n'y a pas encore de perspective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore cette géométrisation.
Il n'y a pas eu une théorisation de ce qu'est la perspective et surtout de ses moyens de construction. On en reparlera par la suite d'ailleurs parce que c'est un élément très important, aussi bien en peinture qu'en architecture, hein, puisque ça permet, par le biais du dessin, par exemple, de représenter une architecture idéale ou à réaliser. On voit bien que avant, comment dire, la survenue de ce qu'on peut appeler la peinture de la Renaissance, il se passe des choses. Vous vous souvenez que j'aime beaucoup employer ce double usage de continuum et discontinuité.
Oui, parce que vous parlez de révolution avec Van Eyck, mais c'est une révolution dont vous dites déjà à quel point elle a été précédée par des éléments italiens, voilà, dont Giotto par exemple, quoi.
Donc en Italie, on en est vraiment là, c'est-à-dire que ça bouge énormément. Il y a l'introduction du clair-obscur dont on dit souvent, alors il faudrait préciser, nuancer, mais que c'est Piero della Francesca qui introduit le premier clair-obscur dans les fresques de l'église d'Arezzo. Hein. Donc ce Moyen-Âge n'est pas figé dans la régression, si je peux dire, comme par exemple Pétrarque, dont j'ai beaucoup parlé la fois précédente, le croit.
Le croit ou le construit, d'ailleurs, on peut se demander. C'est plus peut-être par méconnaissance de tous ces mouvements ou par invisibilisation de ces mouvements-là. Enfin, on peut se demander où il arrive, Pétrarque, finalement.
Puis, il faut dire aussi que quand même la réflexion de Pétrarque, dont j'ai souligné à la fois le cheminement et les limites par rapport à ce que nous, on peut en comprendre aujourd'hui, ça porte essentiellement sur les lettres, malgré tout, y compris sur l'architecture, parce qu'il y a des vestiges à Rome, mais c'est quand même le cœur de Pétrarque, c'est quand même le texte, donc les textes grecs et latins.
Puis autour d'une antiquité mythifiée, en quelque sorte, hein, parce que Pétrarque...
Bien sûr.
Idolâtre, en quelque sorte, les grands auteurs de l'Antiquité.
Ce qui lui fait passer par pertes et profits l'importance de tous les textes médiévaux, notamment des 12 et 13e siècles, parce que c'est pas justement, même si les 12 et 13e siècles se sont beaucoup occupés des textes grecs et latins, hein, je prends toujours plaisir en tant que chartrain à rappeler que dans la façade du portail royal, la façade donc occidentale de la cathédrale, dans le portail de droite, il y a les arts libéraux où sont représentés Cicéron, Aristote. Donc on ne méconnaît pas les textes, comme pourrait le laisser supposer Pétrarque. Mais il se passe énormément de choses, y compris d'ailleurs l'apparition de la science de manière très marquée, même si cette science n'est pas celle que nous connaissons, puisque la révolution scientifique, c'est Galilée, comme je peux l'expliquer. Mais c'est la science aristotélicienne. Et Aristote, quand même, se préoccupe beaucoup de la nature et de la compréhension de la nature. C'est important parce qu'on va parler de ça justement à propos de peinture.
Tu as peut-être un lien avec justement la naissance du paysage dans l'arrière-plan. Je suppose que c'est ce que vous voulez dire.
Oui, bien sûr.
Oui, c'est ça. Avant de continuer, Philippe, sur les questions liées justement au paysage, à la nature, on va écouter une première pièce musicale que je vous laisse nous présenter.
Nous allons écouter une pièce de Diego Ortiz, musicien espagnol de l'époque de la Renaissance. Thank you.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Grand Ciel, l'émission Renaissance avec Philippe Frétinier. Philippe, juste avant cette première pause musicale, vous nous parliez de la révolution du paysage, de la révolution Vandeck. Alors, on peut rappeler peut-être les dates de Vandeck, 1390-1441, donc on est à la charnière du 14e et du début du 15e siècle. Enfin, il a travaillé, évidemment, au début du 15e siècle, puisqu'il est un peu petit avant. Voilà, donc vous souhaitiez nous parler de cette introduction aussi de la perspective.
Oui, il faut bien comprendre que la peinture italienne est déjà en pleine évolution et qu'au fond, il y a un contemporain de Vandeck en Italie qu'on peut considérer vraiment, alors on est au tout des fin 14e, début 15e, comme Vandeck, qu'on peut considérer vraiment comme le premier peintre de la Renaissance, qui a été reconnu comme leur maître, excusez du peu, par Vinci, Raphaël et Michel-Ange.
Ça fait un beau trio.
Il s'agit de Masaccio, dont l'une des œuvres les plus connues sont les fresques de la Cappella Brancacci à Florence. Là, on voit vraiment l'irruption d'une peinture tout à fait nouvelle, même si elle est encore à fresque, parce que elle se libère des formes un peu figées, hiératiques, de la représentation des personnages dans la peinture jusqu'à ce moment-là. Donc, il y a entre autres Adam et Ève qui vont être chassés du paradis, qui font penser, encadrant donc la scène principale, qui font penser vraiment à des figures justement qu'on trouve dans la peinture flamande ou allemande. Je pense par exemple à Cranach, dont des œuvres sont d'ailleurs au musée des Offices. Donc, il y a un processus. En Italie, il y a une sorte de continuum d'évolution qui font que d'un seul coup, qui font qu'il y a quelqu'un comme Masaccio qui arrive avec son génie propre. Il faut vraiment comprendre que l'histoire des arts, c'est comme le reste, c'est comme en science. C'est un ensemble de choses qui font que les choses se construisent, bougent de multiples façons. Et puis en même temps, il y a le rôle décisif de certains personnages qui, à l'intérieur de ce processus, orientent vers une nouvelle direction dont eux-mêmes ne savent pas forcément où elle va aller. En physique, c'est très simple. La révolution quantique, même si c'est à son corps défendant finalement, c'est Einstein. Donc il a joué un rôle décisif. Mais en même temps, l'histoire de la physique à ce moment-là faisait que ça allait arriver. Dans les arts, c'est pareil.
Oui, vous avez souvent souligné ça. Que effectivement l'histoire des arts en tout cas, et le reste aussi sans doute, était une histoire de continuité et qu'il y avait des ruptures, que ces ruptures généralement étaient en fait incarnées dans des génies, les génies de l'époque.
C'est exactement le cas de Vandeck, sauf que à la différence de Masaccio, il y a des choses qui se passent dans le sens d'une future révolution dont même Vandeck ne sait pas non plus où elle ira, c'est que d'abord il y a un véritable âge d'or de la peinture flamande qui est dû à la richesse des Flandres, la cour de Bourgogne, puisque le duc de Bourgogne à l'époque, parmi ses titres, il est comte de Flandre, donc il règne aussi sur l'équivalent des Pays-Bas, ce qu'on a appelé les Pays-Bas espagnols, qui comprennent donc la Belgique, même une part de la France.
Oui, les sept provinces.
Voilà, donc il y a une cour très riche, avec un véritable goût pour l'art, parce que c'est évidemment, encore une fois, je souligne que le seul moyen jusqu'à maintenant, avant l'apparition des détestables voitures allemandes, le seul moyen de légitimation, c'était la culture. C'était quand même autre chose qu'un tas de ferraille. Et donc, les puissants, pour montrer justement qu'ils sont puissants, se font mécènes des arts. C'est favorisé en plus par l'essor des villes commerçantes flamandes, Gand, Bruges, je ne vais pas refaire l'histoire des Flandres, ce n'est pas le sujet ici, mais c'est un contexte économique favorable à l'éclosion des arts, comme d'ailleurs toujours. Si vous regardez le siècle d'or hollandais, ça correspond à l'essor du commerce hollandais au XVIIe. En Espagne, le siècle d'or espagnol, ça correspond à l'arrivée, en gros, de l'or d'Amérique du Sud. Donc, il faut toujours qu'il y ait une expansion économique pour favoriser l'éclosion des jats. Mais il faut aussi des puissants qui sentent que leur ultime légitimité, c'est par la culture qu'ils vont l'asseoir. Alors ça, c'est très important. Il y a une véritable, je dirais, efflorescence de la peinture flamande qui fait que, évidemment, des progrès imperceptibles se font parce que chaque maître apprend des maîtres qui l'ont précédé ou qui l'entourent. Il perfectionne sa technique grâce à ceux qu'il a connu ou qu'il a vu. Quand on arrive à l'époque de Van Eyck, nous avons déjà dans la peinture flamande quelque chose d'extrêmement élaboré, avec en plus, à la différence de l'Italie, je dirais, une importance de la peinture profane. Ce qui est moins le cas dans la peinture italienne, à ce moment-là, je précise ma pensée, peinture profane, c'est-à-dire que comme justement il y a l'apparition de cette bourgeoisie, elle va se faire représenter pour montrer qu'elle a réussi, elle va demander aux peintres de les représenter. L'exemple le plus célèbre, c'est justement un tableau de Van Eyck, un tableau sublime, comme tous les tableaux de Van Eyck, entre parenthèses, hein, qui se trouve à la National Gallery, qu'on peut donc voir facilement. Et c'est le fameux portrait des époux Arnolfini. Je pense que tout le monde le connaît, ou je rappelle pour mémoire ce couple qui vient de se marier, probablement, enfin qui s'est marié il n'y a pas si longtemps que ça, puisque la femme est enceinte. Et puis il y a un miroir derrière qui renvoie comme une construction en abîme, mais à l'envers, c'est-à-dire c'est une question de reflet, et je vais parler beaucoup du reflet chez Van Eyck. Non seulement elle se fait représenter, mais elle se fait représenter dans ses intérieurs, c'est-à-dire que la peinture flamande, souvent le fond du tableau, c'est pas tant la nature que les intérieurs flamands de l'époque. Hein. Parce que la nature en tant que telle, c'est-à-dire en tant que nature signifiante. Finalement, c'est le XVIe siècle qui va commencer à l'installer, avec notamment l'exemple magistral de Vinci. Hein. Mais j'en parle puisqu'on est dans la Renaissance. Hein. Van Eyck se situe dans une société très favorable aux arts et à la peinture, et dans une société qui est en effervescence sur le plan de la peinture.
Alors on continuera sur cette effervescence juste après un deuxième intermède musical. Vous parliez juste avant, Philippe Frétinier, de l'impulsion donnée par la bourgeoisie, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur de la représentation, sur de la peinture sacrée, sur les grandes fresques dans les chapelles ou les églises italiennes. Là, on est dans la bourgeoisie très enrichie donc des sept provinces, les Pays-Bas, la Belgique actuelle, les Flandres françaises aussi, vous l'avez précisé. Et avec cette façon de représenter aussi l'intérieur bourgeois dans toute sa richesse et toute sa splendeur. Il s'agit de briller, en quelque sorte.
Oui, absolument. Il y a eu, il y a un certain temps maintenant, parce que je n'ai pas la date exacte en tête et que le temps passe vite sans que je m'en aperçoive, mais il y avait une exposition qui justement s'appelait « Le siècle de Van Eyck » à Bruges, au musée Groninge. Et il y avait une centaine de toiles. Hein. C'était vraiment extrêmement important. Et on aurait pu faire, enfin les historiens de l'art le font d'ailleurs, une histoire de l'intérieur, du mobilier, de l'habillement, c'est absolument extraordinaire, sans que ce réalisme soit ennuyeux le moindre du monde.
Donc Van Eyck était une sorte de documentariste finalement avant l'heure.
Un petit peu, oui. Ça, c'est vraiment important. Alors, il y a aussi une peinture religieuse hein, qu'on ne se méprenne pas. C'est d'ailleurs le cas du fameux retable de l'agneau mystique. Hein. Simplement, justement, il y a la peinture quitte la fresque pour rejoindre le panneau de bois.
Oui.
Ça, c'est la première, un premier changement. Et le panneau de bois, que ce soit un diptyque ou un triptyque, il est encadré donc par des volets qui se ferment, sur lesquels, en général, ou à l'intérieur, mais sur lesquels, en général, les donateurs se font représenter, ce qui est le cas du retable de l'agneau mystique. Et ce qui est important à souligner, c'est qu'on dit que c'est l'irruption d'une nouvelle technique aussi, c'est-à-dire la technique de la peinture à l'huile. Donc on dit souvent que c'est Van Eyck qui a inventé la peinture à l'huile. Je crois que ce n'est pas tant le problème, parce qu'on ne saura jamais exactement comment ça s'est passé, sauf découvrir des textes qui sont inconnus de nous pour l'instant. Mais surtout, c'est que Van Eyck va porter l'usage de la peinture à l'huile très très loin. Hein, donc avec une maîtrise inégalée jusqu'alors et peut-être depuis. Hein. La peinture à l'huile, contrairement à la tempéra dont je parlais tout à l'heure, permet justement des couches de plus en plus allégées en pigments et donc de jouer sur les transparences. Et ça, ça va être fondamental pour le rendu de la lumière. Or, la symbolique de la lumière est très importante parce que c'est vraiment le reflet de la création divine. J'y reviendrai peut-être plus dans la prochaine émission parce que ça remonte au Moyen-Âge, à Robert Grosseteste, les sphères. Donc, on en parlera beaucoup encore à propos de Van Eyck, mais il y a deux lumières. Hein. Il y a la lux, qui est la lumière au fond extérieure, divine, et puis l'humaine, la lumière physique, celle qui apparaît sur les objets. Hein. On va d'ailleurs tout à fait trouver cette dimension allégorique parce que à travers le reflet dans l'objet, c'est-à-dire la lumière physique qui permet justement de discerner l'objet, mais avec ses nombreux reflets, c'est la complexité de la création qui apparaît et donc aussi finalement la fameuse lumène. Finalement, c'est une véritable révolution qui va d'ailleurs s'étendre à l'Italie, puisque toujours d'ailleurs c'était intéressant dans l'exposition Van Eyck, on voyait le parcours des tableaux flamands qui partaient vers l'Italie, puisque les villes de Gand et de Bruges avaient des comptoirs, les familles italiennes avaient des comptoirs, et quand elles rentraient en Italie, elles emportaient avec elles des tableaux flamands.
C'est plus facile à transporter qu'une fresque murale, en effet. Alors, peut-être que pour finir, on va écouter un... Il y a encore beaucoup de choses à dire sur Van Eyck et je pense que vous y reviendrez la prochaine fois. Mais pour terminer, on va peut-être écouter une dernière pièce de musique. Je vous laisse la présenter.
C'est un musicien qui s'appelle Albert de Rip et c'est une fantaisie.
Merci Philippe Frétinier. Pour aujourd'hui, nous quittons Radio Grand Ciel et nous reviendrons très très bientôt pour à nouveau parler de Van Eyck, de la lumière, de la création et de la complexité de tous ces reflets que la peinture à l'huile permet.